c'est le temps. Et pour ça, on va lire le début de l'épître de Jacques, donc le premier chapitre, les 12 premiers versets. Jacques 1, versets 1 à 12. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, on en sait quelque chose ces jours. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. Alors on dit souvent que notre époque incite à l'impatience et à l'insatisfaction. On veut tout, tout de suite. On ne peut pas attendre. Les plus âgés d'entre nous, bon, j'en fais partie, ne voient pas forcément quelque chose de bon dans ce climat actuel de facilité et de recherche de solutions rapides. Ils craignent que les jeunes n'apprennent jamais le goût de l'effort qui porte ses fruits plus tard et que nous perdions la sagesse de savoir attendre les bonnes choses de la vie. Or, il se peut que les épreuves pour les jeunes soient tout autres que celles de la génération précédente, que la notion même de temps et du cycle de vie est changée. Mais il est de toute façon difficile de nier la tendance à vouloir vivre à court terme et à s'accorder aujourd'hui plutôt que demain ce que peut nous offrir la vie. Ainsi, le rythme de la vie de notre époque s'accélère. On remplit nos agendas de façon inédite parce que les communications et les transports le permettent. La vie rime avec vitesse, au point que certains se trouvent à la traîne. Mais c'est un autre sujet, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce rythme de vie que nous connaissons n'a sans doute aucun rapport avec la vie des premiers lecteurs de Jacques. Quoique, si on allait un peu plus loin au chapitre 4, Jacques va fustiger ceux qui projettent de faire des affaires à court terme en oubliant que leur vie dépend de Dieu. Cependant, la tentation du raccourci de vouloir avoir tout, tout de suite, sans effort, bonheur, satisfaction physique, intellectuelle, culturelle, marque la nature humaine depuis les origines. Souvenez-vous du récit de la Genèse. N'est-ce pas en voyant que le fruit de l'arbre pouvait donner la connaissance immédiate, que la femme s'est précipitée dans la désobéissance, refusant ainsi de faire confiance à Dieu pour sa vie et son bonheur? la même impatience et la même tentation du raccourci, de vouloir les bénédictions de Dieu sans obéissance à sa parole, le bonheur sans lui faire confiance dans le temps, le confort sans attendre l'accomplissement de ses promesses, guette notre foi. Ils ne sont pas rares les mouvements qui promettent qu'en croyant en Jésus-Christ, tout ira bien, ce sera le bonheur. Jacques nous invite à une perspective un peu moins consumériste. Elle nous invite à une foi plus mûre, plus cohérente, qui met en pratique la parole, qui la met en pratique dans le monde réel. Il nous invite à la foi qui sait résister aux épreuves sans s'effondrer ou s'aigrir, à la foi patiente, persévérante, interpellée par l'amour du prochain, une foi qui s'exprime dans la prière et dans l'attente de la venue de notre Sauveur. C'est cette perspective que Jacques veut donner à notre vie. Pas comme un grand-père qui dirait que le rythme de la vie d'autrefois, d'antan, était bien meilleur que celui d'aujourd'hui, était plus sage. Mais comme un frère qui nous dit que ça a toujours été difficile de résister à l'impatience et à l'immédiateté dans notre relation avec Dieu. Mais que notre foi en Jésus-Christ doit tendre vers la maturité, la persévérance, la cohérence, si elle veut être crédible, durable et vivante. Alors Jacques, l'auteur de cette lettre, c'était sans doute le frère de Jésus. C'était lui qui était le chef, on peut mettre chef entre guillemets, je pense, de l'église de Jérusalem. Et il parle en priorité aux Juifs. Et dans son exhortation, il y a deux sources d'inspiration. La première est de culture juive, donc de l'Ancien Testament. Quand on lit « Le riche passera comme la fleur de l'herbe », ça reprend une phrase courante que nous pouvons lire dans le prophète Ésaïe, dans les psaumes. Et ce livre de Jacques ressemble parfois au livre de la sagesse, comme Proverbe ou l'Ecclésiaste, parfois aux écrits prophétiques, notamment au livre d'Amos. Et Jacques cite dans sa lettre des personnages de l'Ancien Testament comme exemple de foi, Abraham, Rahab, Job, Élie. Cependant, l'autre source majeure de l'exhortation de Jacques, c'est l'enseignement de Jésus, en particulier celui qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne. Le texte qu'on a lu ce matin se termine par une béatitude qui s'apparente aux béatitudes du Sermon sur la montagne. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Jésus disait « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Comme pour les prophètes et Jésus, le message principal de Jacques est l'authenticité de notre foi. La cohérence entre la forme extérieure de notre religiosité et les actes réels. Et aussi la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce que Jacques dénonce en particulier est la tendance à être des hommes partagés, des hommes doubles, professant la foi mais vivant égoïstement à la manière du monde. Et on le voit déjà dans le texte de ce matin, qu'il demande la sagesse avec foi sans la moindre hésitation. Seul, autrement, c'est un homme partagé, inconstant dans toutes ses voies. Il me semble que là, l'hésitation n'est pas le simple doute que nous pouvons avoir, mais l'hésitation concrète de celui qui demande la sagesse à Dieu, au Dieu de la Bible, mais qui en même temps s'appuie exclusivement sur lui-même. Ou sur les hommes, ou peut-être même sur son horoscope, pourquoi pas. La prière se réduit alors à un acte superstitieux, une technique peut-être d'auto-persuasion que l'on peut démultiplier auprès de différentes offres spirituelles qu'il y a sur le marché. Et ça, c'est une duplicité de cœur que la Bible condamne, inconciliable avec une vraie relation de confiance avec Dieu, le Dieu unique. Jésus disait, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est incompatible. Jacques écrit à des chrétiens de culture juive. Un des présupposés de la culture juive de l'époque, peut-être toujours maintenant d'ailleurs, que l'enseignement de Jésus renversé était que la bénédiction de Dieu s'exprimait par les richesses et la réussite sociale. C'est peut-être pour ça que les disciples avaient beaucoup de mal quand Jésus disait que c'était si difficile aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Pour eux, les riches étaient bénis, bénis de Dieu, et donc entraient en premier dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Et Jacques suit ce même renversement de valeur quand il dit, au début de la lettre, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Dans son milieu religieux, donc de l'époque, et je pense que ça existe encore pas mal aujourd'hui, les épreuves étaient le signe d'un manque de foi, d'une relation défaillante avec Dieu et de son jugement. Je pense que c'est bien humain de vouloir que ce soit ainsi. Car selon ce raisonnement, si je suis fidèle, et je pense que je le serai, Dieu me protégera, donc il ne m'arrivera rien. Ça, c'est la foi assurance-vie. Et je pense qu'aucun n'y échappe complètement dans sa relation avec Dieu. Cependant, cette foi-là ne peut pas aimer son prochain, puisqu'inévitablement, quelque part, elle le juge. Alors, les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer doivent être une source de joie car elles commencent à purifier notre foi, de cette foi talisman, superstitieuse, d'autoprotection, pour qu'elle devienne encore plus ce qu'elle est, une relation réelle avec le Dieu vivant. Quand tout va bien, on ne sait pas comment notre foi réagira devant les difficultés. Quand le moment difficile arrive, et que notre foi, quoique secouée, subsiste et même s'approfondit, nous savons que notre foi n'est pas une foi intéressée, mais une foi authentique qui met sa confiance en Dieu, qui espère en sa réponse, et qui compte sur sa fidélité et sur son amour. Pour pouvoir nous aider à comprendre la logique de Jacques quand il dit qu'on doit considérer les épreuves comme un sujet de joie, j'aimerais suggérer que Jacques ne parle surtout ici des épreuves ordinaires ou quotidiennes. Je pense aux épreuves courantes dont nous pensons qu'on mériterait d'échapper. Les épreuves courantes, un logement inadapté, un échec dans les études, le chômage, l'hospitalisation, des tensions dans le couple, enfin j'en passe. Vous avez remarqué sans doute que dans ce morceau de texte, Jacques passe d'un sujet à l'autre sans que le lien soit toujours évident. Comme le fait d'évoquer la condition du pauvre et du riche, dans le début de cette lettre. Et moi, ça me semble peut-être vouloir dire que une des épreuves pour un chrétien, c'est cela. Peut-être être pauvre, rester pauvre avec la déception, la frustration, la faiblesse sociale que cela implique. C'était peut-être le cas à l'époque, ça l'est certainement toujours aujourd'hui. Et là aussi, Jacques procède au même renversement de valeur. Que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation, que le riche au contraire dans son abaissement. Pauvreté et richesse ne pèsent pas grand-chose dans la relation avec Dieu. Elles ne comptent pas pour la vraie vie. Ce qui compte, c'est la foi. Une vraie et authentique relation avec Dieu. Une foi qui met sa confiance en Christ, qui croit en son royaume et qui met en pratique sa parole par l'amour du prochain. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, il recevra la couronne de vie, celle qu'il a promise à ceux qu'il aime. Puis l'organisation de l'épître de Jacques n'est pas toujours évidente pour nous. Les thèmes réapparaissent plusieurs fois au cours de l'épître. On trouve d'ailleurs les principaux thèmes dans ce début, ce premier paragraphe. Cependant, quand on regarde la structure un peu de la lettre, et c'est sans doute une logique hébraïque, la lettre commence et se termine par le même thème, l'endurance, la patience, la prière. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job ? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Là, c'est tout dans l'épître de Jacques. Hein ? Ainsi, Jacques introduit à la fois cohérente l'idée du temps, le temps de l'épreuve, le temps de l'espérance, le temps de l'endurance, le temps de la patience, le temps qui a pour horizon non la satisfaction rapide de mes aspirations, même spirituelles, mais la venue de Christ. La foi a besoin de temps pour être purifiée de son égoïsme, de temps et de l'épreuve pour la détacher de son nombrilisme, de temps pour l'ouvrir à l'amour du prochain. Notre difficulté est que le temps du mûrissement de la foi n'est pas forcément synchrone avec la vitesse de notre époque. À ma connaissance, il n'existe pas de formation accélérée de la foi pour pouvoir après surfer sur nos acquis. L'attente, l'espérance, la patience feront toujours partie de la foi. Il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que nous soyons des chrétiens mûrs, cohérents, vivants. Or, pour conclure, je suis juste dans les temps. Résistons donc à la tentation du raccourci, de l'impatience dans notre vie chrétienne, à l'impulsion de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, à la tentation d'instrumentaliser la foi pour esquiver les difficultés de la vie. Et demandons à Dieu la sagesse dont nous avons besoin pour intégrer son temps à notre rythme de vie. Et cette sagesse, il la donne généreusement, sans faire de reproches. Amen.